temps, contre-temps. Une émission de Canal Academy, Virginia Crespo et ses invités.
Bienvenue, vous êtes sur Canal Academy, à l'écoute de Temps contre Temps, une émission qui se veut ancrée sur deux idées forces, échange et transmission. Temps contre Temps recevra, dans sa formule actuelle, trois invités. Un personnage riche d'une expérience, d'un savoir recherché, acquis passionnément tout au cours d'une vie, d'une existence. Canal Academy a le plaisir aujourd'hui de recevoir Lucien Gerfagnon. Lucien Gerfagnon, professeur émérite des universités, conseiller honoraire à l'Institut international de philosophie. Il est membre correspondant de l'Académie d'Athènes et lauréat de l'Académie française et de l'Académie des sciences morales et politiques. Spécialiste de la philosophie grecque et romaine, auteur d'une vingtaine d'ouvrages, correspondant de plusieurs revues scientifiques étrangères, il a dirigé, notamment chez Gallimard, l'édition des œuvres de Saint-Augustin dans la bibliothèque de la Pléiade. Temps contre temps recevra également et systématiquement deux étudiants, une fille, un garçon, eux aussi passionnément engagés dans tout un parcours d'études, donc toujours en recherche de connaissances, mais aussi avec le projet de se positionner par rapport à des idées, à des engagements qui leur tiennent à cœur. C'est pourquoi aujourd'hui, ils entrent à votre écoute en dialogue avec Lucien Gerfagnon.
Et j'en suis ravi.
Bonjour Lucien Gerfagnon.
Bonjour à vous.
Bonjour Isaure Mercier.
Bonjour.
Vous avez 22 ans, vous avez présenté une maîtrise de lettres classiques sur l'actualité et les enjeux de la parénèse épistolaire. Que signifie parénèse épistolaire?
Écoutez, c'est ce qui correspond en fait à l'exhortation. Et donc, je voulais montrer comment, à travers l'écriture d'une lettre, Sénèque, puisque c'était de lui qu'il s'agissait, cherchait à exhorter son disciple Lucilius, donc à le conseiller.
Isaure, vous êtes également donc en quatrième année à Sciences Po, ainsi qu'en deuxième année à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Parmi nous également, Julien Martinez.
Bonjour.
Bonjour, vous avez 21 ans, Julien. Vous aussi avez intégré l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, tout en poursuivant des études à Sciences Po. Alors dites-nous sur quoi porte la maîtrise que vous préparez actuellement à la Sorbonne.
Eh bien, je travaille sur la réflexion politique de Saint-Augustin et plus particulièrement sur la correspondance de celui-ci, c'est-à-dire sur la transposition qu'on peut voir du modèle politique proposé par Augustin entre la cité de Dieu et le corpus de lettres qui est assez étendu.
Lucien Gerfagnon, on a prononcé le nom d'un vieil ami de route, un compagnon de route.
Je dirais presque un camarade de promotion depuis le temps que je vis avec Aurelius Augustinus. C'est une très bonne idée, cher ami, d'avoir pris ce sujet de mémoire, de diplôme, comme on disait de mon temps. Vous avez d'ailleurs dans ce domaine un prédécesseur qui n'est pas mal non plus. À savoir Albert Camus. Albert Camus a fait son mémoire sur Augustin.
Oui, et tout à fait, mais lui avait...
C'était dans une toute autre perspective.
Lui avait la chance aussi, il y avait un lien tout à fait affectif, puisque c'était son compatriote.
Oui, c'était deux Africains tous les deux, oui, oui. C'est une bonne idée, vous voyez, d'avoir un tel parrain dans les cieux.
Pourquoi cet attachement à ce personnage? Qu'est-ce qui vous a passionné en Augustin?
Il est incontournable. Tout le monde a lu, lira Augustin. C'était le best-seller de l'Occident, le maître de l'Occident, et fatalement, travaillant sur la pensée grecque et romaine, je suis tombé un beau jour, il y a de ça bien longtemps, sur Saint-Augustin, et puis je ne l'ai plus guère quitté. Ce qui va vous amuser beaucoup, c'est que un de mes patrons de la Sorbonne, quand j'étais chargé de cours à la Sorbonne il y a de ça 40 ans, m'avait confié des travaux pratiques à faire avec les étudiants de Propée, et j'avais choisi trois auteurs, dont Saint-Augustin. Je m'étais dit, ils vont s'ennuyer à mort. Et bien, pas du tout, j'étais passionné.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Augustin peut continuer à être un best-seller, puisque finalement, c'était le best-seller de l'Antiquité et de son vivant. Il l'est resté pendant le Moyen-Âge. Qu'est-ce qui peut distinguer finalement Augustin de Saint-Jérôme, hein, de ses contemporains, que l'on ne lit plus vraiment aujourd'hui, disons avec une acuité moindre que celle avec laquelle on lit Augustin?
Oui, il veut dire qu'il est un petit peu réservé aux exégètes, en somme, Jérôme, aux exégètes,
oui, tout à fait,
ou
oui.
Alors aux historiens très pointus de l'Antiquité tardive. Qu'est-ce que je pourrais vous dire là-dessus? Je me dis qu'au fond, s'il continue à nous intéresser, c'est parce que il est allé aussi loin qu'il se peut dans l'étude de ce que nous sommes, de l'homme. Il a un intérêt énorme au point de vue psychologique, il a un intérêt énorme au point de vue historique, puisqu'il a suivi une époque, au moment précis d'ailleurs, où se défaisait un empire. Il a une valeur métaphysique extrêmement intéressante. Si vous voulez, il est destiné à être contemporain d'un petit peu toutes les époques, sauf à partir du moment où nous deviendrons complètement idiots. Vous voyez, si jamais nous défaisons, on s'apercevra qu'on ne lit plus guère Saint-Augustin.
C'est l'auteur le plus lu et le plus souvent réédité après la Bible, dit-on.
Oui, ça a été vraiment... vous voyez, ça a commencé avec Posidius de Calama, et les gens qui, comme moi, ont édité Saint-Augustin sont des successeurs de Posidius, qui avaient réussi à sauver les bouquins de Saint-Augustin et leur faire passer la mer.
Oui, parce que ce qui est merveilleux, c'est que finalement, alors que Augustin meurt pendant que Hippone, son siège épiscopal, est assiégé par les Vandales,
oui,
on arrive à préserver la bibliothèque d'Augustin, qui devait être particulièrement conséquente.
Et mal rangée.
Et mal rangée, puisqu'il a tellement écrit que de son vivant, il nous dit dans les rétractationnistes.
Bien,
que,
vous avez une bonne connaissance des choses.
Il se souvient à peine des premiers ouvrages qu'il a écrits. Même le premier ouvrage manichéen était perdu de son vivant.
Oui, vous avez remarqué qu'il n'est pas tendre avec lui dans les rétractationnistes, dans les révisions, comme on traduit. Il n'hésite pas à dire.
Jamais, effectivement.
Oui, vous l'avez remarqué.
Mais même dans les confessions, il n'est pas très tendre avec lui, puisqu'il fait une relecture de sa vie qui est parfois...
Mettez-vous à la place d'un vieil évêque qui revoit sa vie, qui était moins dissolu qu'on l'a prétendu, hein, mais qui n'était tout de même pas, enfin qui ne correspondait pas, si vous voulez, aux critères vraiment le top, dirait-on aujourd'hui dans le beau langage moderne que m'apprennent mes petits-enfants. Au point de vue moral, c'était pas le top. Alors, un vieil évêque relisant sa vie, bon, ben, qu'est-ce qu'il voit? Il voit tout ce qu'il avait à faire, tout ce qu'il aurait dû faire. Et ce Dieu, toujours à l'affût, prêt à le sauver, alors que lui-même marche au loin. J'allais au loin, tu étais près de moi, etc.
Isor Mercier.
Oui, justement, vous venez de parler des confessions de Saint-Augustin. Est-ce que Saint-Augustin n'a pas justement une actualité littéraire pour nous aujourd'hui, à une époque où le genre des confessions, de l'écriture de soi est très en vogue actuellement? Et quelle est la spécificité d'Augustin?
C'est de n'être pas précisément ce que nous entendons aujourd'hui par confession, ou bien que Rousseau entendait par le mot de confession. Aujourd'hui, qui dit confession dit type qui se raconte, qui va tout nous dire, spécialement ce qui est un peu graveleux pour que ça soit plus drôle, etc. Alors que là, c'est une confessio laudis au sens latin du mot. Autrement dit, comme on est confesseur de la foi, par exemple. Donc là, c'est une confession de louange. Il regarde sa vie. Et il dit au fond, mais enfin, qu'est-ce que je peux avoir pour que Dieu m'ait autant aimé alors que j'étais si loin de lui? Et alors, d'un bout à l'autre des confessions, il va certes se raconter, mais il se raconte pour montrer jusqu'à quel point cet amour le couvait, alors qu'il ne s'en doutait pas.
Julien Martinez.
Oui, vous avez tout à fait raison, et c'est vrai qu'il est à noter que ce qui peut nous paraître paradoxal, que les confessions de saint Augustin sont très pudiques justement, puisqu'on n'apprendra jamais le nom de la compagne.
La pauvre petite, oui.
Vous êtes en recherche vous-même, Lucien Gerfagnon.
Écoutez, je l'ai toujours été, maintenant ça se calme un peu, hein. Mais en recherche, nous le sommes jusqu'à notre dernier jour.
Mais par rapport au nom de la Dulcinée d'Augustin?
Non, parce que, je dirais brutalement, c'est fichu, nous ne le saurons jamais. Il s'est arrangé d'ailleurs pour qu'on ne le sache pas, sa mère aussi probablement, cette chère Monique.
Le rayonnement de saint Augustin par rapport au concept de vérité, de tolérance, l'actualité de saint Augustin aujourd'hui en 2003?
Ce serait une vérité qui serait moins sectaire. Augustin n'était pas sectaire. On l'a sectarisé par la suite. Ceux qui se sont prétendus augustiniens l'ont, disons, souvent tristement arrangé. Mais il y a quelque chose de très intéressant chez saint Augustin, c'est que cet homme de vérité, il a en même temps une mystique qui l'interdit d'être totalitaire. Voyez, je ne veux pas employer le terme d'agnosticisme parce que ça ferait penser à autre chose, n'est-ce pas? Mais il y a, si vous voulez, un agnosticisme transcendantal. Quand il dit quelquefois, si tu trouves une bonne formule sur Dieu, c'est que c'est pas ça. Ou bien Dieu, melius nesciendo, le Dieu qu'on connaît mieux quand on le connaît sans le connaître, autrement dit, sans plaquer dessus des mots qui le définiraient, hein.
Oui, c'est d'abord un Dieu en quelque sorte sensible au cœur, pour reprendre l'expression de Pascal, qu'un Dieu intellectuel, finalement, pour ce grand penseur qui est Saint-Augustin.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Des pensées, il en a autant qu'il en veut dans tous ses bouquins. Il a tout lu, ce qui se lisait de son temps. Il a tout essayé. Et finalement, c'est en renonçant à la domination de l'intellect qu'il a découvert la vraie manière de penser. C'est une intelligence qui n'est pas dictatoriale. Et lui-même, s'inscrit dans l'écriture. C'est le sens d'ailleurs de ce qu'il dit, vera philosophia est vera religio, la vraie philosophie c'est la vraie religion. Ça ne veut pas dire que la science n'existe plus, etc. Ça veut dire que au bout de tout cela, il y a au moins quelque chose dont je suis sûr, c'est l'éternité divine dans laquelle je peux me ressourcer à chaque instant.
Lucien Gerfagnon, en parlant de Saint-Augustin, et en parlant du personnage qu'il a été dans les premiers temps de sa vie, arriviste, ambitieux, le genre d'homme,
oui,
comme vous dites, que Dieu attend au tournant, et vous dites son génie a sauvé Augustin, et vous répondez, qu'est-ce que le génie? La capacité développée à l'extrême de voir les choses autrement. Saint-Augustin a vu les choses autrement?
Il a vu tout ce qu'on voyait à l'époque, il l'a vu effectivement autrement. C'est le type qui véritablement a des idées personnelles sur tout, et puis qui ne s'en vante pas, qui ne prononce pas des paroles qu'il estime lui-même historiques, comme beaucoup de gens qui sont très pontificaux, n'est-ce pas, qui parlent avec, au fond, qui sont emportés par leur propre ferveur intellectuelle. Alors ça, généralement, on sait, je pense à un film dont j'ose à peine donner le titre, mais enfin, disons-le quand même, puisque nous sommes entre nous, le dîner de cons, n'est-ce pas? Il n'y a rien de pontifical dans ce sens-là chez Augustin, parce qu'il sait trop le mal qu'il a eu à accueillir la grâce de Dieu, qui lui a enfin donné la lumière.
Et c'est vrai que l'exigence intellectuelle d'Augustin le pousse à ne pas donner de réponse dogmatique quand il n'est pas sûr de la réponse. Je pense notamment à la question épineuse de l'origine de l'âme. Il propose pas moins de 4 hypothèses dans une correspondance très nourrie et très fouillée avec Jérôme, sans jamais trancher véritablement en disant qu'il n'est pas capable de donner, lui, la réponse.
Oui. Tout ce qu'il a pu faire d'ailleurs à ce propos, ça a été à partir de l'écriture dans le De Trinitate, par exemple, quand il montre que Dieu qui est Trinité a fait l'âme à sa façon, entre qui a trois fonctions, mémoire de soi, intelligence de soi et amour de soi, et que tout cela doit se transformer en mémoire de Dieu, intelligence de Dieu et amour de Dieu. Hein? Et il a dit ça dans le De Trinitate. Comme je ne suis pas un ordinateur portatif, je ne peux pas vous dire à quelle page exactement. Je crois que ça doit être chapitre 12, mais je n'en suis pas sûr. Je dis sortir une bêtise, il vaut mieux pas en tenir compte.
Saint Augustin, un personnage à découvrir et à redécouvrir. Et...
oui, c'est beau.
Lucien Gerfagnon, Isor Mercier, Julien Martinez, merci d'avoir partagé ce temps de parole autour de Saint-Auguste.
Merci à vous.
Merci. Merci.